contente d'être parmi vous. Voilà, je voulais vous parler avec vous de Josué. Vous connaissez tout Josué ? Oui, ça marche, hein, vous êtes un public aguerri, donc je vais faire appel à vos connaissances bibliques. Donc, prenez une feuille, un stylo. Non. Alors, et de ce pays promis. Avec Moïse, ils ont erré dans le désert. Donc, avec Moïse, ils sont sortis donc d'Égypte. Le peuple d'Israël. Ensuite, ils ont traversé le désert. Et ils ont même été aux portes de Canaan. Et ensuite, ils ont erré 40 ans dans le désert. Et voilà qu'ils sont aux portes du pays promis, où Dieu dit, maintenant, on va y aller. Et on l'a chanté tout à l'heure, le chant avec ton esprit là, où donne-nous, nous sommes dans ce pays que tu nous as donné. Le coin d'Épinal, il vous est donné à vous, et c'est ce pays promis que vous avez là. Et ben, bon courage hein, pour le conquérir. Et on voit que c'est jamais facile. À Belfort, c'est pareil. Hein. C'est très compliqué. Et on va vivre un petit peu avec Josué. Je propose d'étudier les 6 premiers chapitres un petit peu, mais pas environ pendant 3 heures. Les 6 premiers chapitres, on va les survoler, mais c'est autant d'images, et je vous invite ensuite à relire Josué et à vous laisser imprégner par cette histoire et à nous laisser Dieu nous parle encore aujourd'hui au travers de toutes ces histoires et nous laisser comprendre que bah, ce pays promis qui est pour nous, combien des fois on a du mal de croire qu'il est à nous. Alors je vous propose de lire Josué 1, les versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que tu fouleras, que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, il parle à Josué, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est beau, hein ? C'est une promesse que Dieu fait. Et la condition de ces promesses, c'est de rester le plus proche possible de la Bible, de s'en nourrir au quotidien. Je pense que c'est une promesse que nous fait à chacun d'entre nous et une demande à chacun d'entre nous de rester au plus proche de la Bible et de s'en inspirer au quotidien. Alors, ce livre de Josué, c'est pas forcément un livre historique. C'est un livre qui a été écrit plus tard, certainement au moment de la royauté de David. Et c'est un livre qui a été utilisé par un prophète pour interpeller son peuple. Donc, parfois, les épisodes du livre de Josué sont un petit peu mélangés. Mais l'objectif de l'auteur était de parler au travers de cette histoire. C'est important de le savoir, parce qu'on verra qu'il y a pas mal de personnages dans ce qu'on va découvrir dans Josué chapitre 1 et 6, qui vont complètement, si on était historien, on ne saurait même pas qu'ils existent. Mais là, en l'occurrence, dans la Bible, ils existent, parce que ce sont des personnages qui vont nous parler et qui vont nous interpeller. Alors, quelle est la situation de ce peuple d'Israël? Je vous montre juste une petite carte, un petit peu. Hein. Du coup, ils sont sortis du pays d'Égypte. Et Josué va vivre un petit peu les mêmes choses que Moïse à certains moments. Et autant Moïse aura fait traverser la mer Rouge, autant Josué va faire traverser au peuple le Jourdain, aussi à pied sec. Et du coup, ils vont vivre, donc le peuple va vivre 40 ans dans le désert, mais auparavant, il avait traversé et acquéri surtout les lois, hein, les tables de la loi. Et pendant ces 40 ans, toute cette génération a pu se nourrir pleinement de ce que le Seigneur leur a apporté. Nourrir au sens propre, puisqu'ils ont été aussi nourris de la manne pendant toute cette période. Et là, quand ils vont arriver au pays promis, Dieu va leur dire, là maintenant, vous allez commencer à manger des fruits du pays. Je trouve que c'est important, tous ces 40 ans là, passés auprès de Dieu, à vivre des... On dit que dans le désert, ils étaient portés par Dieu. Chaque endroit où ils allaient, il y avait souvent après un oasis qui s'est créé. Et Dieu les a portés pendant ces années, était tout proche d'eux. Autant cette traversée de la mer Rouge sortie du pays d'Égypte, pays d'Égypte qui est le symbole de l'esclavage dans lequel on vit, dans le péché et de la conversion quand on traverse cette mer Rouge, autant là, quand on va passer dans le pays promis, ça sera certainement le symbole de l'engagement et du baptême, de l'engagement avec son Église où on va passer à devenir acteur et manger effectivement des fruits de ce pays, mais en se nourrissant toujours de tout ce qu'on a appris durant ces 40 ans dans le désert, entre guillemets, ces 40 ans où on était proche de Dieu à se nourrir de lui. Alors, Josué, donc, est aux portes de ce pays, et comme Moïse, il envoie des espions un petit peu observer ce qui se passe dans ce pays. Il n'en envoie pas 12, cette fois-ci, il en envoie 2. Et ces deux espions, qu'est-ce qu'ils découvrent ? Ils découvrent Jéricho. Jéricho, et en fait, à Jéricho, tout le peuple de Jéricho sait combien c'est qu'ils vont se faire écraser par le pays, par Israël. La bataille est déjà gagnée dans la tête. Le peuple de Jéricho est sûr de perdre. C'est étonnant, hein ? Et donc ces espions viennent et puis découvrent ça. Dieu a déjà beaucoup travaillé en amont. Dieu a préparé les choses. Et du coup, ces deux espions risquent de se faire attraper. Et pour se sauver, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient chez une dame qui les accueille, qui est une prostituée et qui s'appelle Rahab. Et cette prostituée va leur dire ceci. Avant que les espions se couchassent, dans Josué 2, verset 8, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, et que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est une belle confession, hein ? Et si tout le peuple de Jéricho va être condamné à être voué par interdit, c'est-à-dire les enfants, les parents, les vieillards, eh bien, il y a une personne et toute sa famille qui vont être sauvées. Parce qu'ils ont décidé, avant que ça n'arrive, hein, de faire cette démarche de foi. Elle a pris cette décision d'accueillir ces deux espions, de les cacher au péril de sa vie, hein, n'empêche. Hein. Ils sont venus la chercher chez eux, elle les a bien cachés, elle risquait gros à cacher ces deux espions. Et seule, cette femme et toute sa famille va se sortir de ce pays. Alors, juste, on a du mal à comprendre cette guerre où on dévoue par interdit, où Israël va mettre à mort tout ce peuple. Mais c'est le symbole qu'à un moment, la fin arrive pour chacun d'entre nous. Et Rahab, à un moment, a fait ce choix-là de se tourner vers le Seigneur et de le reconnaître comme le seul Dieu, son sauveur. Et c'est ce qui va le sauver, elle et toute sa famille. Et je pense qu'on est tous à un moment confrontés à ce choix. Et nous sommes amenés à la fin de notre vie, à chacun. Ça, c'est quelque chose qui... Il n'y a aucun doute pour chacun d'entre nous, et ça nous pose cette question aussi, de là où nous en sommes. Et Rahab sera sauvée. Alors voilà que donc le pays est devant eux, ils sentent que tout soit prêt, le peuple de Jéricho est complètement et très inquiet, et il va être temps de traverser ce Jourdain. Alors, Josué va comme Moïse, hein, passer devant et l'eau va s'ouvrir et ils vont pouvoir traverser ce fleuve du Jourdain. Alors, ils vont faire, après avoir traversé cet endroit, ils vont faire une chose et Josué dit aux enfants d'Israël, Josué 3, verset 9, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué reste toujours fidèle à ça. On prend du temps à écouter la parole de l'Éternel, encore et encore, dans tous les moments importants, avec le peuple. Et en traversant ce Jourdain, ils vont prendre chaque tribu va prendre un caillou du milieu du Jourdain et construire un petit autel pour l'Éternel. Je trouve que c'est important de... Comme je vous l'ai dit, hein, cette traversée du Jourdain, je vais vous montrer juste encore une autre petite carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. C'est à peu près le même endroit. C'est l'endroit où on baptisait du temps de Jésus. C'est à peu près le même endroit. Alors, je ne sais pas, 100 km près, je ne sais rien. Une carte de loin, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est à peu près le même endroit où, pour moi, ça symbolise le même endroit du baptême. C'est l'endroit où il y avait les baptêmes. Et donc, cette traversée du Jourdain, symbole de tout un peuple, toute une église qui va traverser ce Jourdain et qui va s'engager dans le témoignage, dans la conquête d'un pays qui leur est promis. Ils sont 12 tribus et c'est tous ensemble qui vont aller travailler à la conquête de ce pays. Et je trouve que c'est important de se dire que ce n'est pas la décision d'une personne. C'est tout un peuple qui traverse le Jourdain et tout le monde va emmener son caillou avec lui et apporter son caillou à l'édifice. C'est beau comme ça, Paul aussi. Et il y aura à ce moment-là, Josué va demander à ce que le peuple se circoncie à nouveau, à ce que les hommes soient circoncis. Et on va célébrer à nouveau la Pâque avant de s'engager dans le combat. C'est un temps important où on se concentre un petit peu sur notre relation à Dieu pour ensuite aller investir ce pays. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fin de la manne. Ça veut dire qu'on va aller se mélanger aux autres. C'est fini le temps, ça va être fini le temps où on est contre soi. Désormais, on va aller s'ouvrir sur l'autre et on va quelque part se laisser influencer aussi par les autres parce qu'on va manger de leur pays. Et là, le Seigneur va nous rendre très attentifs au fait que, effectivement, vous allez vous ouvrir aux autres, mais restez fidèles à ma loi, restez fidèles à ce que je vous ai enseigné, c'est l'essentiel, c'est important. Et à ce moment-là, Josué rencontrera même, c'est extraordinaire lui de Josué, le chef des armées de l'Éternel, qui lui a dit, voilà, je suis là, je combats avec toi. Souvent, quand on est dans des rôles comme ça où on doit prendre la parole en public, coup, on a un peu d'appréhension. Là, le Seigneur lui donne tous les éléments pour qu'il soit sûr, qu'il soit renforcé dans son rôle. Et je pense qu'on peut prier le Seigneur pour qu'il nous donne aussi cette force d'assumer notre rôle là où on est. Alors, ensuite, ils arrivent à Jéricho et c'est la victoire. Alors, la victoire de Jéricho, vous connaissez cette histoire ? Comment ils ont vaincu Jéricho ? Oui. À Jéricho, pour se protéger, ils se sont mis derrière des grandes murailles. Et désormais, on a une culture de la guerre, nous aussi. On sait que quand on est attaquant, il faut être supérieur 3 fois. Hein, c'est ce qu'on dit pour l'Ukraine. Hein, il faut être 3 fois supérieur en homme et en matériel pour pouvoir attaquer quelqu'un qui est sur son lieu. Et là, en l'occurrence, le peuple d'Israël, je ne sais pas si c'était 3 fois supérieur en... Mais il va bien falloir trouver un moyen pour battre Jéricho. Et Dieu donne ses moyens, tourner autour, mais tout le peuple, hein, les enfants, les femmes, tout le monde tourne autour de cette ville pendant 6 jours, ouais. Et là, le 7e jour, ils sortent des trompettes, ils sortent et ils crient très fort et les murailles s'écroulent. Extraordinaire. Quand Dieu a décidé de nous donner quelque chose, il nous le donne. Il nous demande, et ce qui est formidable aussi, c'est que Dieu, il décide de faire avec nous. Donc il fait tourner le peuple autour de ces murailles. C'est avec nous qu'il veut faire les choses. Et donc l'Éternel fut avec Josué, et dont la renommée se répandit dans tout le pays. Encore une fois, on voit que l'Éternel travaille tout ce pays pour que le peuple d'Israël puisse s'installer. Mais voilà, il y a un problème. Prochaine bataille, c'est contre Aï. Alors, je ne sais pas si en hébreu, ça veut dire la même chose, aïe aïe aïe, mais ce n'est pas grave, pour nous en français, aïe aïe aïe, ça veut dire aïe. Effectivement, aïe, il y a un problème. Et donc, cette fois-ci, ils sont sûrs d'eux, ils décident d'aller combattre Aï juste avec 3000 soldats, hein, puis ça va être facile, ils se disent. Et ils y vont, et une perte, ça ne marche pas. Ils se font attaquer par les soldats d'Aï qui les poursuivent, et il y aura des morts du côté d'Israël. Et surtout, une défaite. Et alors là, autant le fait qu'il y avait des murmures qui disaient « Attention, Israël arrive, il gagne tout », là, autant les murmures vont dans l'autre sens. Et ça va être facile de battre Israël, en fait. Oh là là, alors Josué est très inquiet. Et très inquiet, il crie à l'Éternel en lui disant « Mais qu'est-ce que tu nous as emmené dans cette galère? Maintenant, on est au milieu du pays. » Et tout le monde va savoir qu'on n'est pas si fort que ça, et tout le monde va nous attaquer. Et Josué est vraiment est inquiet, quoi, très inquiet pour son peuple. Et voici ce que l'Éternel lui dit, Josué 7, verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, mais pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Et là, en l'occurrence, c'est pas Aï qui a gagné, c'est plutôt le peuple qui a perdu devant Aï. Et cette étude, là, ça tombe toujours dans des périodes où, au niveau professionnel, par exemple, on a toujours un collègue qui représente un petit peu cette aïe aïe aïe, cette aïe où on a l'impression, ah qu'est-ce qu'il est agaçant, c'est pas possible, il met toujours des bâtons dans les roues, on n'arrive pas à avancer. Et souvent, ça arrive des fois de perdre contre aïe, contre ce collègue ou je sais pas quoi. Mais en fait, est-ce que c'est bien ce collègue qui a gagné ou est-ce que c'est pas nous qui avons plutôt perdu parce qu'on ne prend pas le bon chemin pour résoudre le problème? Et moi, ça me pose vraiment ce style, ça m'a vraiment interpellée, hein, cette bagarre contre aïe, en me disant, Colette, c'est peut-être, c'est pas aïe qui a gagné, c'est toi qui as perdu. Donc ça m'a pas mal interpellée. Pour résoudre ce problème, il se trouve que vous voyez le nom de la personne qui a été responsable, il s'appelle Achan. Mais pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'a fait Josué? Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a dit, tu vas réunir tout le peuple. Alors, il y en a un seul hein, qui a récupéré des objets de valeur et les a cachés pour les garder. Il y en a un seul. Mais Dieu lui dit, tu récupères tout le peuple, tu le réunis. Et vous allez voir qui est coupable. Donc, tout le peuple a dû venir et ils ont tiré au sort et ils ont découvert que c'était une tribu. Toute la tribu, ça devait être inquiétant, hein, était là, ils ont découvert que c'était une famille. Et ensuite, dans cette famille, ils ont découvert que c'était Achan. Pour dire que dans l'église, c'est pareil. On est toute une église, mais parfois, il y en a l'un ou nous-mêmes qui nous sommes laissés influencer par ce monde et qui avons récupéré ces valeurs de ce monde pour les cacher un petit peu et les garder. C'est comme Ananias et Saphira, hein. Ils ont été coupables parce qu'ils ont donné. S'ils avaient dit on vous donne la moitié de ce qu'on a, mais ils ont dit non, on vous a tout donné. Hein, vous vous souvenez? C'est parce que des fois, on ne va pas jusqu'au bout. On fait croire aux gens qu'on va jusqu'au bout, mais on n'y va pas. Et l'Église a ce rôle aussi d'être responsable aussi de tout ça, de se poser des questions et de pouvoir reprendre les uns et les autres. C'est une mission de l'Église de lier et délier certaines choses. Et moi, ça aussi, ça m'a interpellée, parce que souvent, dans l'Église, on a plutôt tendance à se dire oh, « c'est pas mon problème, ça ». Mais Dieu nous dit « attention, vous êtes tout un peuple, vous êtes tous ensemble, ce sont vos frères et vos sœurs, c'est votre problème aussi. » Et ça aussi, ça m'a interpellée, cette faute d'Achan. Et quand ils ont résolu ce problème avec Achan, eh bien, voilà, la victoire contre Aïe. Alors, ils ont vaincu Aïe, vous savez comment? Ils sont présentés tout le peuple devant Aïe, et là, la ville de Aïe s'est dit, bon, on va les avoir. Donc Aïe, sûrs d'eux-mêmes, ils sont sortis de leur fortification, et ils ont attaqué le peuple qui s'est enfui, comme la première fois, qui s'est enfui, sauf qu'ils avaient prévu une armée de 3000 personnes, les Israélites, pour les prendre à revers par derrière. Je trouve, alors c'est une ruse, effectivement, mais Dieu utilise après nos erreurs, ce qui nous est arrivé, pour le transformer d'une certaine manière en richesse, en ressource. Et cette faiblesse qui est apparue du peuple, ça a été quelque part ce qui leur a permis après de pouvoir conquérir cette ville. Dieu arrive à transformer les choses et à les changer en bénédiction. Et bien sûr, ils se réunissent tous ensemble ensuite. Josué est réuni encore après ces deux victoires, réunit tout le peuple et propose une fête de nouveau, d'être de nouveau tous ensemble. Et pendant cette fête, qu'est-ce qu'ils font? Josué 8, verset 34. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne fût en présence de toute l'assemblée, ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Encore une fois, Josué, pour finir, reprend la parole et la relie encore et encore à tout le peuple. Et c'est important de pouvoir à la fois lire ces paroles tout seul chez soi, se laisser inspirer de Dieu, mais tous ensemble dans le peuple, en Église, ça prend encore une dimension supplémentaire. Et je trouvais intéressant qu'il y avait des femmes, des enfants et des étrangers. Et si le peuple d'Israël peut paraître comme ça anti-étranger, je dirais, là, vous voyez, ils sont vraiment inclus dedans, dans cette fête. Et je trouve que c'est essentiel que nous puissions laisser une place à ceux qui viennent nous découvrir, laisser une place à ceux qui ont envie de s'insérer, laisser une place parce qu'ils deviennent le peuple de Dieu. Comme nous, nous avons été accueillis, nous sommes des étrangers, enfin, personnellement, je ne suis pas juive d'origine, et grâce à cette bénédiction là, qui a eu lieu là, et bien, désormais j'ai pu trouver le Seigneur Jésus, et c'est magnifique. Alors pour conclure, on récapitule un petit peu tout ce que moi j'ai pu trouver, mais je vous invite vraiment à lire ces passages et vous dire que c'est un prophète qui les a écrits pour parler à son peuple et vous dire bah, qu'est-ce qu'il va encore me dire et lire tranquillement les choses. Voilà. C'est Dieu qui combat pour son peuple. C'est Dieu qui donne la victoire, qui donne la force nécessaire à chacun de ses conducteurs. Attention à l'histoire de Rahab. Encore aujourd'hui, hein, nous pouvons saisir la chance, notre chance, mais il y a un jour où bien ça sera trop tard. Donc, c'est un avertissement. Dieu prend le temps de nous former, de nous nourrir, et vient le moment où il faut traverser ce Jourdain et aller de l'avant avec l'Église en entier. On verra de grandes victoires, tous ensemble. Mais attention à Yayaï, hein. Mais Dieu peut transformer des erreurs en victoire. Le secret, c'est ce qui a été dit tout au début, ce que Dieu a donné comme secret à Josué, se tenir tout près de lui, en lisant sa parole, seul, mais surtout en Église. Il nous livrera alors notre pays promis, tout dernier. De grandes victoires spirituelles nous attendent. Seigneur, gloire à toi. Amen.